Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 21 janvier 2022. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 2, épisode 102. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Coucou à tous, ici Adrien, accompagné de la méga influente Laetitia qui fait et défait les modes. Si elle a décidé qu'en 2022, c'est les NFT et les cryptos qui vont prendre le dessus, alors ça sera le cas. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Et cette semaine, pas mal de réconfort. Des news simples et funky, du méta, de la logistique, de la crypto, de la levée de fonds, plus calme que la semaine dernière. Et surtout, cette semaine, c'était la NRF. On y était presque. Et oui, Michel Coq de Diamar Connect nous fait part de son retour d'expérience en exclu au micro du podcast Le Café de l'e-commerce.
Et si vous ne disputez pas avec votre conjoint mais que vous faites l'amour, vous pouvez aussi nous écouter. Moi, il n'y a que de l'amour. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun et on vous challenge avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Cette semaine, un what the fuck et un chiffre de la semaine. Laetitia ?
Adrien ?
Prêt ?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
On était dans la rumeur, on va inception dans tous les sens, mais Amazon a décidé au dernier moment d'annuler sa décision de bannir le réseau Visa sur le marché UK.
Britannique.
Britannique, c'est ça, merci Laetitia. Donc il faut croire que le bras de fer a fonctionné, que le gros coup de pression a fonctionné. Bravo Amazon et bien sûr je suis sarcastique.
Instagram propose à ses influenceurs de vendre des abonnements à leurs followers. Et j'ai l'impression que j'avais déjà traité cette news juste avant les vacances de Noël. Mais là, ça y est, c'est bien en marche et ça commence aux États-Unis. Et ça fait grand débat.
Amazon Logistics, élu en Angleterre le meilleur transporteur devant 16 autres acteurs, dont DPD, FedEx, DHL ou Royal Mail. Royal Mail, c'est la poste nationale.
Meta, la société mère de Facebook et Instagram, réfléchit à permettre un accès direct aux NFT pour ses utilisateurs.
Leader Price propose la commande et le paiement via WhatsApp. On va voir si on peut également contacter le directeur de magasin, comme ça tu seras très contente. Les levées de fonds de la semaine et les rachats de la semaine, c'est la rubrique où on s'intéresse aux rachats et aux consolidations sur le marché. Laetitia, qu'est-ce qu'on avait cette semaine ?
On s'intéresse à la money. Et cette semaine, c'est CoinHouse, qui est une plateforme française d'échange de crypto, qui vient de lever 17 millions de dollars. Alors, à l'échelle de toutes les plateformes de crypto, c'est pas énorme, mais c'est pas mal pour une plateforme française.
Je sens qu'en 2022, tu vas créer ton podcast sur les cryptos, Laetitia, c'est possible ou pas ?
Non, je suis déjà en retard.
Il n'y a pas de retard.
C'est dommage.
Tout le monde est au même niveau. Hardloop, la plateforme e-commerce française dédiée aux articles de sport lève 3 millions d'euros. Félicitations Hardloop.
Bravo Hardloop. La news what the fuck de la semaine. Adrien, qu'est-ce que tu as sélectionné ?
Quand je l'ai lu, je n'y croyais pas et pourtant ils l'ont fait. Amazon va lancer cette année son premier magasin de prêt-à-porter en Californie qui va s'appeler Amazon Style. Tu pourras utiliser ton application Amazon pour améliorer ton expérience. On va envoyer Nicolas Rebet pour nous faire un petit compte rendu de tout ça. C'est fou de se dire que tu vas pouvoir acheter des fringues dans un magasin Amazon de prêt-à-porter et il y a déjà des fuites sur ce qui va pouvoir être possible dans la fitting room, donc dans la cabine d'essayage, pardon. Tu vas pouvoir avoir des recommandations quasiment en temps réel, avoir les produits recommandés qui viennent à toi. Donc je suis très 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 curieux et intéressé de voir où ça va aller et je me sens complètement dans la cible. Si c'est du Uniqlo like où il n'y a pas de marque et c'est des produits très très simples qu'on va pouvoir acheter, je pense que ça peut bien marcher. Enfin en tout cas je me reconnais, donc j'ai hâte de voir si ça prend et comment ça va se développer. Et si tu devais racheter dans un magasin de fringues Amazon?
Oui, mais moi je comprends pas ta surprise puisque quand j'ai vu la news je trouvais que justement c'était rien de neuf sous le soleil et que je connais déjà des boutiques comme ça, mais même des boutiques à Paris où voilà, t'es dans la cabine d'essayage et t'as déjà des écrans et alors t'as très peu de vendeurs sur ce genre de boutique, mais moi je l'ai pas trouvé hyper surprenant.
Avec ton app, tu peux l'envoyer en magasin, tu te pointes dans le magasin, tu essaies le produit, etc.
J'ai pas trouvé ça foufou, mais curieuse aussi de voir ce que ça donnera. La news inutile dont on s'emballait, Adrien.
Et bah cette semaine, la news inutile à mon sens, c'est Spendesk qui devient la 26e licorne française après une levée de fonds de 100 millions d'euros. C'est une plateforme de gestion des dépenses. Alors 26e, il y a des débats. Est-ce qu'il y a vraiment 26 licornes quand on voit qu'il y a OVH qui est une boîte publique qui est comptée dans ces 26, Blablacar ou AVP. Blablacar c'est 2006, Deezer c'est 2007. Donc bon, on pourrait remettre un peu en question ces licornes. Mais c'est con de chaque semaine, on incrémente, etc. Bah, c'est très bien, parler. J'ai juste l'impression que là, c'est beaucoup, beaucoup de com. Et ça commence un petit peu. Je commence un peu à saturer sur toutes ces com de licorne dans tous les sens. Et si à toi, t'applaudis et je devrais arrêter d'être aigri
je croyais que tu étais surpris de tout et heureux de tout cette semaine. Moi, je suis contente parce que Spendesk, c'est quand même. C'est un acteur français qui existe depuis aussi un moment. J'ai pas la date en tête, mais je trouve ça très bien. Et surtout que je rappelle que je crois que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était 25 licornes avant 2025. Donc, voilà,
on a 3 ans d'avance.
On a de l'avance. C'est génial. Et voilà, après, moi, là où je m'interroge, et je m'interrogerai toujours, effectivement, tu soulignes Blablacar, Deezer. Bon, toutes ces boîtes qui ont levé et relevé et qui sont des licornes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? C'est quoi le plan? Et puis surtout, tu parles d'OVH. Le but, c'est de rentrer en IPO et d'être public. Il n'y en a pas énormément là. Donc à voir. Mais en tout cas, sur cette promesse-là, 25 licornes avant 2025, donne quoi. Et j'en souhaite encore beaucoup d'autres. Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous. C'est la rubrique que je déteste le plus dans cette émission. Mais elle est importante car vous la plébiscitez. Adrien, de quoi as-tu envie de parler cette semaine?
J'ai envie de parler de quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. On a dans la société pour laquelle je travaille, on a eu des nouvelles personnes qui sont venues, qui nous ont rejoints en Angleterre. Il y a 4-5 nouvelles personnes. Et dans le cadre de leur formation, de leur training, il y a eu une petite formation e-commerce. Et donc, je me suis prêté au jeu et je leur ai fait une formation d'une heure et demie sur l'e-commerce. Alors, j'ai commencé en leur demandant quel est leur niveau d'e-commerce. Ils m'ont tous dit 5 sur 10. Et quand ensuite, ils sont amusés à me demander « Et toi, Adrien, combien tu te mettrais ?» Je leur ai répondu 8 sur 10. Alors, ils ont ouvert les grands yeux. Ils m'ont dit « Mais ça fait 15 piges que tu es dans l'e-commerce, tu as un podcast, etc. » Et en fait, j'ai l'impression que plus on apprend…
Tu devrais être à 15 sur 10.
Non, pas du tout. C'est que plus on apprend et plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Enfin, qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mmh. Et après, c'est les sujets. Est-ce que tu as envie de tout savoir? Pas vraiment. Donc, les personnes qui disent qu'ils sont experts e-commerce, déjà, ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est très très dur, enfin c'est impossible d'être expert. Ça veut rien dire. Et même chacun des sujets, tu vois, à un moment donné, on expliquait les acronymes et j'avais une dizaine d'acronymes. Et chacun de ces thèmes, c'est tu peux faire ta carrière, tu peux faire 15 ans dans le sujet, le SEO par exemple, ou les tests AB, ou ce que tu veux, la personnalisation, ou le marketing, l'email, etc. Donc je trouvais ça intéressant. J'ai partagé également les ressources. Alors elles sont en français et ces personnes, elles parlaient pas français, mais toutes les ressources qu'on a, les acronymes, les plans de cours, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Les terminologies des acronymes, par exemple, c'est en anglais. Donc ils sont ici en retrouvés. On va continuer, je vais continuer à le faire régulièrement. C'était assez intéressant et puis amusant de voir la perception qu'ils pouvaient avoir, les connaissances qu'ils pensaient avoir et les connaissances qu'ils avaient. Donc on va continuer, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, je trouvais ça amusant et super intéressant et c'est toujours enrichissant de toute façon de partager ces connaissances avec d'autres personnes. Et toi Laetitia, quoi de neuf chez toi?
C'est marrant que tu parles de cette formation parce que justement moi je suis en train de me former au NFT, surtout pour le métaverse. Et du coup quand vous entrez dans le monde NFT et du méta, faut passer par les cryptos. Et là, en faisant toutes mes recherches, je me suis dit, mais en fait, le e-commerce n'existe déjà plus, on est déjà dans le méta-commerce. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, et peut-être que tu as repimpé cette présentation, puisqu'on avait déjà fait une présentation comme ça dans d'autres circonstances, pour moi, tout ça, c'est obsolète, c'est tellement vieux, et ça n'a plus, dans quelques mois, ça n'aura plus, ça existera toujours, mais ça fera beaucoup moins sens parce que aujourd'hui on a une nouvelle donne, on a les cryptos, les méta et les NFT, et vraiment moi ça m'interroge, je suis tout le temps en train de me dire non mais est-ce que ça existe toujours le concept du e-commerce? Je suis en train de me dire que oui, mais ça devient un vieux concept.
Il faudra quand même pas mal de temps avant que...
Je ne sais pas, tout va tellement très vite que je pense que là, on ne va pas être sur une vélocité de 5 à 10 ans. Je pense que tout va arriver et qu'on n'est vraiment pas prêt. Tu vois, je pensais par exemple sur dans le monde des métaverses, est-ce que des acteurs de la logistique ou du post-achat ou des choses comme ça auront leur place? Compliqué, puisqu'en fait, on achète des choses qui sont pas palpables, pas physiques. Comment est-ce que des acteurs comme ça du e-commerce peuvent survivre? Je sais pas. Je m'interroge vraiment. Et en revanche, les acteurs du social commerce et du social media, et les marques surtout, elles ont une place énorme à prendre.
Ça sera peut-être un bon sujet là pour le clash commerce, Laetitia, parce que je partage pas cet avis. Donc on va le noter là et on pourra débattre justement.
Ça marche. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat, et le tout sans langue de bois. Cette semaine, il s'est passé un partenariat surprenant, Adrien.
Ouais, alors étonnamment, je ne l'ai pas vu beaucoup repris. Peut-être que je suis le seul à être étonné de ça et j'ai trouvé que c'était une news de fou furieux. C'est un partenariat entre Shopify et le chinois JD.com. Shopify, on connaît bien, on en parle peut-être chaque semaine, on en parle peut-être trop, j'en sais rien. En tout cas, bah, quand tu es dans l'e-commerce et que tu ne parles pas de Shopify ou d'Amazon, tu peux te poser des questions. Shopify, donc plateforme e-commerce. JD.com, on a l'habitude de dire que c'est l'Amazon chinois. Ils ont 550 millions d'utilisateurs, donc c'est une marketplace en Chine. Et donc, ce partenariat entre ces deux acteurs, un acteur canadien, mais qui a une très très forte présence aux États-Unis, et un acteur chinois, elle tombe un peu de nulle part, on pourrait se dire. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Ça veut dire quoi ce partenariat? Il va dans les deux sens, mais il y a surtout un sens qui a été communiqué, c'est celui des États-Unis vers la Chine. En fait, ce qui va se passer, c'est que JD.com va gérer à 360, enfin de comment on dit ça, end-to-end, la transaction depuis les États-Unis jusque la Chine. Donc quand tu vas être une marque, un marchand sur Shopify, tu vas pouvoir vendre des produits de manière complètement transparente et très facile vers la Chine. Et JD.com, JD va s'occuper de la conversion du prix en monnaie avec la monnaie locale, de la logistique, donc ils vont récupérer ton paquet aux États-Unis ou dans ton entrepôt, ils vont faire tout le transport jusqu'en Chine et puis ils vont le livrer aux consommateurs. Ils vont s'occuper de la mise en avant également sur leur marketplace des produits, et puis ils vont s'occuper de toute la réglementation, parce que c'est pas facile de vendre en Chine. Alors ils expliquent dans leur communiqué de presse, là, il faudra creuser avec un expert, mais peut-être qu'ils exagèrent un petit peu, mais en tout cas, il y a une vraie complexité. C'est qu'en général, si tu veux lancer ton activité en Chine ou pour vendre en Chine, il faut compter un an, 52 semaines, et là, ils réduisent le temps de 3 à 4 semaines. Un mois pour lancer un produit et puis le vendre en Chine, ça me paraît phénoménal. Et après, peut-être ça ne prend pas un an, mais ça prend certainement plusieurs mois. Il y a beaucoup de complexités, notamment réglementaires, qui sont dures à gérer. Alors, c'est quoi mon analyse sur tout ça? Déjà, beaucoup, beaucoup de personnes vont en bénéficier. D'abord, les consommateurs chinois. Ils vont pouvoir avoir plus accès à un catalogue plus important. Donc, c'est très bien pour eux. Ils vont avoir tous les produits des marques que l'on connaît. Il y a un bénéfice également qui est un tire gagne, celui qui s'en tire bien, c'est JD. Ils vont avoir une meilleure profondeur de catalogue sur des segments qui sont peu présents en Chine. En fait, la Chine, les consommateurs chinois, ils ont sur certains segments, ils ont toujours préféré les marques occidentales, notamment dans le luxe et cosmétiques, par exemple.
Dans
et
luxe.
Donc, ouais, voilà. Et donc là, ils vont avoir directement un accès à toutes ces belles marques qui existent, des marques occidentales, qui vont pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Et pour eux, c'était compliqué d'avoir certaines marques, voire ils les trouvaient pas. Ça va être bien pour les marchands Shopify également. On a 1,7 million de marchands, dont 50% sont aux États-Unis. Donc ces marchands là, ils vont pouvoir très, très facilement bénéficier de ce partenariat et ça, ils y sont directement, ils vont directement voir les bénéfices. Il y a également la société Shopify qui bénéficie parce qu'ils expliquaient que l'Asie, c'est le marché qui a la plus forte croissance et aujourd'hui, ça représente environ 15% de tous les marchands. Donc les bénéfices, ils sont, on les voit pour beaucoup d'acteurs et qui va en pâtir? Et bien, ceux qui sont en train de pleurer dans un coin, c'est peut-être Alibaba, enfin tous les concurrents finalement de JD. Donc, c'est Alibaba avec les Taobao, Tmall qui font 30% aux États, en Chine. Donc, tu as Taobao, Tmall qui fait 30%, Amazon qui fait 13%, JD qui fait 9%, et ensuite c'est Pinduoduo et eBay qui fait moins de 5%. Donc, tu as Alibaba là qui du coup a dû apprendre la nouvelle et qui doit pas être content, qui doit réfléchir à des alternatives. Ouais, surtout qu'ils communiquaient beaucoup, donc je voyais pas, enfin, j'ai été surpris de le voir de la part de JD.com. J'aurais vu un Alibaba faire ça, on va dire ok, make sense. Et puis, c'est également pas nécessairement bien pour les concurrents du coup de Shopify. Alors moi, je ne mettrais pas les grands comptes, les Salesforce et compagnie, je pense qu'ils sont, c'est pas leur positionnement. Par contre, ceux qui sont dans ce segment des plus petites marques, type big commerce, eux, pour eux, ça pourrait avoir, et encore une fois, on pourrait dire, est-ce que big commerce est un vrai concurrent quand tu vois la taille et le segment qu'ils adressent. Ils avaient communiqué l'année dernière autour d'un partenariat qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on parle ici, où ils avaient fait un partenariat avec Mercado Libre, qui est une marketplace en Amérique du Sud, pour pouvoir vendre au Brésil, Mexique, je crois, Argentine, Colombie, il me semble. Donc voilà, au final, c'est un partenariat gagnant. On peut faire un carré ou toutes les formes que tu veux. Ce partenariat, il explique qu'il va dans les deux sens. Donc les marques qui vont pouvoir vendre en Chine mais également les marques chinoises qui vont pouvoir s'exporter. Et pour le coup, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup moins d'informations dans cet autre sens. Donc, je ne sais pas si c'est, s'il y a une réalité derrière ou dans quelle mesure ce partenariat va permettre aux marques chinoises d'aller s'exporter et d'aller vendre en Occident. Donc, ça va arriver très rapidement. Là, ça va arriver pour cette année. Et j'ai du mal à croire qu'on ne va pas encore en entendre parler et que ça ne va pas continuer. Ça va certainement aussi un peu mélanger, enfin bousculer tous les acteurs qui vont se dire, OK, avoir une plateforme e-commerce, c'est une chose, mais il faut avoir des partenariats, il faut gérer end-to-end, il faut un accompagnement end-to-end pour certaines marques qui en ont besoin. Et je vais juste moduler un petit peu ce que je dis, parce qu'on a l'impression que c'est, waouh, c'est juste, bon, c'est extraordinaire, oui, mais ça va résoudre tous les problèmes sur Terre. En réalité, quand tu vends en Chine, juste vendre sur JD.com, bah c'est bien pour commencer, mais tu ne vas pas pouvoir faire ta stratégie ou ton go-to-market complet long terme de cette manière-là. Mais quand même, pour tester, pour voir le marché, pour voir quand ça commence à prendre. Et là, tu vas définir une stratégie peut-être plus locale et trouver d'autres solutions alternatives. Donc, j'ai trouvé ça super et j'ai trouvé ça incroyable, ce partenariat. Je me le note là pour la fin de l'année, pour les news qui vont marcher.
J'ai parce que celui-ci, c'est Adrien, wow. La communauté te mandate pour suivre l'évolution de ce partenariat.
Mais je crois que je suis le seul à m'intéresser parce que tout le monde s'en fout. Je l'ai vu, personne n'en a parlé. Donc,
j'ai vu la news et j'allais la mettre en news simple et funky, mais effectivement, expliquer de cette manière-là, on a envie de
peut-être que je suis interprète aussi, mais je crois pas. Je pense qu'il se passe des trucs. Parce que, bon, bref, il y aurait plein d'autres trucs à raconter sur comment Shopify a réagi, etc., leur positionnement sur tout ça, mais bon, voilà.
Retour vers le futur, c'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions et nos analyses et on vous en fait part. Montez dans la DeLorean et c'est parti. L'année dernière, quasiment jour pour jour, j'adore quand ça matche bien comme ça, nous recevions Arnaud Nakache d'AliceNet. Adrien, on parlait de quoi d'autre à cette époque-là ?
Il y avait pas mal de choses. Ce que j'avais noté qui était intéressant, c'est MyTheresa. Tu connais ? T'as déjà acheté sur MyTheresa ?
Ouais.
Enfin, t'as vécu en Angleterre,
non,
donc tu connaissais...
Marketplace.
Ouais, Marketplace un peu quoi, haut de gamme, non ?
Très haut de gamme. Ouais, enfin très haut de gamme. Haut de gamme.
Moi, j'ai vu les prix, j'ai vite fermé mon navigateur, j'avais peur que ça allait me coûter de l'argent, quoi. Mais bon, bref.
Tu préfères dépenser tout cet argent sur Amazon.
Ouais, voilà, exactement. Les 300 balles, des petites pompes, je sais pas grave. Bon, bref. Bon, MyTheresa qui préparait son entrée en bourse. Et donc, ça, c'était fin janvier de l'année dernière. Et il y a une semaine, qu'est-ce qu'on lit ? Les performances de MyTheresa au dernier trimestre et pour l'année entière dépassent ses propres prévisions. Au quatrième trimestre, la croissance des ventes net est exceptionnelle. Sur l'année entière, elle dépasse 2020 et 2019. Bon, 2021, ils ont tout déchiré. 36% de croissance annuelle. Donc, les gars, ça, c'est je fais mon Laetitia là. Donc, félicitations, MyTheresa. Fevad qui nous parle de V-commerce immersif. Et là, je me foutais de leur gueule. Je me disais, putain, c'est bullshit world. V-commerce immersif. Bah, finalement, ils avaient peut-être raison. Parce qu'on apprend, V-commerce, finalement, c'est le métavers. C'est virtuel commerce.
Ouais,
c'est
juste
le
mot immersif.
Voilà, c'est le mot immersif qu'ils n'auraient pas dû mettre et tout ensemble. Ils auraient dû l'expliquer différemment. Mais finalement, c'est un truc de fou. Fin janvier, il nous parlait de virtuel commerce immersif, qui est aujourd'hui métavers et tout ce qu'on on en parle chaque semaine depuis quelques mois. Et j'ai eu passer qu'Estée Lauder, notamment, passe au V-commerce. Donc, ils ont repris la même technologie avec sa marque Too Faced. Je ne connaissais pas cette marque. Je suis allé sur le site, je n'ai pas trouvé les liens. J'ai fouiné un petit peu pour essayer de trouver un lien et pour essayer de tester justement tout ça. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, si jamais quelqu'un là de la communauté, envoyez-le-moi. J'ai hâte de tester. Cdiscount qui devient éditeur de marketplace Octopia. On en a parlé dans l'épisode 100.
Dans
l'épisode 100. Et qu'est-ce qu'on apprend il y a quelques jours ? Que, après les entrepôts en France et en Allemagne, ils se décident de d'ouvrir des entrepôts en Espagne. Donc, ils continuent leur croissance. Laetitia, l'année dernière, tu nous parlais des 10 apps les plus téléchargées en 2020. Et tu sais, comme j'adore les classements, et là, je suis ironique. Alors, les 10 apps téléchargées en 2020, c'était Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. J'ai regardé le rapport.
TikTok dans l'histoire ?
Si, c'est le premier. TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram.
Ah, t'as dit Twitter, c'est pour ça.
Ah, pardon.
Et cette année, c'est.
Justement, je suis retourné sur la même page pour essayer de trouver le rapport et ce qu'ils avaient mis à jour. Et ils l'ont effectivement mis à jour, c'est sur le même site, pour l'année 2021. Et ce sont les mêmes acteurs, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc, il y a un petit changement d'ordre, mais c'est toujours la même chose. C'est pour ça que j'adore ces classements. On en apprend tellement. On avait également Arnaud Nakache d'AliceNet qu'on avait reçu au micro. Bah, Arnaud, c'est un copain que je connais depuis 10 ans. Il nous parlait d'e-commerce et du marché de l'e-commerce en France. C'était toujours très intéressant et amusant d'échanger avec Arnaud. Et enfin, je voulais t'en parler, Laetitia, le café du mytho, le bad buzz de la DNVB, Lou, y es-tu ? Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé après le shitstorm, le bad buzz de l'année dernière ?
Bah ouais, il y a eu un gros mea culpa de la part de la fondatrice Et après, moi, j'ai arrêté dessus parce que je me suis désabonnée de cette marque. Ouais. Voilà.
Et bah, écoute, finalement, comme on pouvait le prévoir, et ben en fait, c'était c'est pour ça que
tout
je
va
dis
très
shitstorm.
Bien.
Bah oui, tout va très bien. Donc tout le monde a crié, etc. Aujourd'hui, ils sont à 550 000 followers sur Instagram. Tout roule. Je suis allé dans les commentaires des 5-10 dernières publications. Il y a plus du tout le rageux. Alors que tu te souviens, à l'époque, ils avaient fermé les commentaires. Tu pouvais plus rien faire.
Ouais.
Et là, maintenant, tout le monde applaudit. C'est génial ce produit, etc.
Donc, mais le monde adore les méchants et les méchantes. Hein.
Non, je pense qu'ils ont juste oublié.
Enfin,
le monde oublie vite. Je pense plutôt c'est ça, quoi. Donc finalement, il y a eu, c'était une période difficile, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un impact, bah, sûrement financier. Mais...
Ah, je pense que si, en interne, il y a dû avoir un impact quand même au niveau du respect des, du droit du travail, du droit social. Puisque a priori, ils ont quand même cherché à se faire encadrer et se faire aider. Donc,
c'est de la com',
ça. J'espère que dans ce sens-là, ça marche.
Je sais pas, je suis beaucoup plus sceptique sur le monde, surtout sur des exemples comme ça.
Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept ou qui nous revient d'un événement auquel nous n'avons pas pu participer. Et cette semaine, nous prenons un café avec Michel Koch de Diamar Connect. Il nous revient tout droit de la NRF qui s'est tenue cette semaine à New York.
Et j'ai le plaisir d'être avec Michel. Bonjour Michel, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ?
Bonjour Adrien, ravi d'être avec toi à nouveau. Je suis Michel Koch, je suis dans le e-commerce et dans le retail depuis 25 ans. J'ai eu la chance d'être pionnier dans le secteur. Après pas mal de postes de direction e-commerce en France, à l'international, notamment au UK où j'ai passé 6 ans, je suis revenu en France il y a 4 ans pour diriger l'Institut du commerce connecté qui aujourd'hui ça s'appelle Diamart Connect. Et qu'est-ce qu'on fait chez Diamart Connect ? On fait des événements qui réunissent les retailers et les tech, et on est un petit peu l'animateur de l'écosystème retail tech, donc passionné de retail et de technologie et de e-commerce. Je suis en train d'écrire un bouquin sur le e-commerce, j'en parlerai dans une future édition.
Je savais pas si on avait le droit d'en parler, génial, on a l'exclu, il y a un bouquin qui se trame, génial. Michel, avant cette satanée pandémie, tu organisais des learning expeditions, c'est comme ça que tu les appelais, c'est ça ?
Absolument, learning expedition, qu'est-ce que c'était ? Ben, on emmenait un groupe d'une dizaine, une quinzaine de retailers, souvent des codirs de la même boîte, un mélange de différentes entreprises, à la découverte de l'innovation, là où elle se fait, là où elle se produit, notamment aussi pour visiter des concepts de magasins physiques, mais aussi pour rencontrer les GAFA, etc. Donc on partait aux États-Unis, à Silicon Valley, New York, à la NRF, on va en parler, et aussi on a fait des learning expeditions, figure-toi, en Chine, à Shanghai, il n'y a pas si longtemps, donc en 2019, mais aussi en Israël, enfin voilà, plein de projets. Tout ça s'est arrêté évidemment avec la pandémie, mais ce qui ne m'a pas empêché de retourner braver le Covid à New York même pour la première NRF depuis 2 ans. On va en parler tout de suite.
Bah justement, exactement, on va dans le sujet. Ça a repris avec la NRF il y a quelques jours, ça s'est terminé. Est-ce que tu peux peut-être déjà réexpliquer ce que c'est que la NRF pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas trop ?
En fait, la NRF, c'est l'organisation, la fédération du retail américain. National Retail Federation, c'est leur événement s'appelle The Retail Big Show. Le Big Show, et c'est vrai que c'est un Big Show. Hein, chaque année, au mois de janvier, jusqu'à présent, jusqu'en 2020 en tout cas, il réunissait 45 000 personnes à New York, tous les retailers des États-Unis, d'Amérique, mais aussi de l'international, énormément de délégations internationales, dont pas mal de Français. Hein. Il y avait régulièrement 300, 400 Français qui venaient, plusieurs centaines de Brésiliens aussi. On a vu des délégations. Enfin, voilà, ça, c'était un peu la grand-messe du retail. Ça l'est toujours. Elle s'est faite en digital, en full digital en 2021 et pour cause. Et sur ce début 2022, ils ont tenté de passer entre les gouttes du Covid, de Omicron, avec une NRF présentielle.
Du coup, moi, j'ai essayé de voir si je pouvais me connecter, s'il y avait des liens streaming et tout ça. Il n'y avait rien. Il y avait quelques secondes de présentation. Mais effectivement, autant l'année dernière, ils étaient tout le streaming, ça n'a pas vraiment pris. Et on comprend pourquoi, parce que c'est justement tout l'intérêt de se rencontrer. Michel, avant d'entrer dans le détail, est-ce que c'était une bonne édition ? Est-ce que tu en ressors avec le sourire et avec des choses intéressantes ? Et surtout, c'était quoi le thème de cette année en sachant tout ce qui se passe dans le monde ?
Écoute, dire que c'était une bonne édition, ça dépend de quel point de vue on se passe. Moi, du point de vue de l'observateur, du reporter, j'étais ravi parce qu'il y avait, on pouvait accédait facilement à toutes les conférences. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Les speakers étaient brillants, hein, pour la plupart. C'était les grands patrons de toutes les grandes boîtes retail américaines. Donc oui, moi, j'étais très satisfait de ce que j'ai vu. Un peu déçu, évidemment, de voir que pas mal de tech n'étaient pas venus, notamment les grands de la tech, hein, Microsoft, SaaS, Salesforce, enfin, les gros acteurs de la tech qui d'habitude font des shows extraordinaires n'étaient pas là. Mais globalement, oui, c'était intéressant parce que c'était un bon moyen de prendre la température et de voir quelles sont les grandes tendances du moment.
Tu en as fait combien, Michel, des NRF ?
C'était ma quatrième.
Ok, donc tu as pu comparer. Et quand tu dis qu'il y avait moins de monde, c'est quoi le ratio ? Moitié moins ou vraiment beaucoup moins ?
Non, beaucoup moins. J'ai pas les statistiques officielles, mais certains observateurs ont dit qu'au lieu de 45 000 habituels, on était sur 15 000, donc un tiers. Ouais. Un tiers de participants. Et comme tu le disais, rien n'était en streaming, donc il fallait être présent si tu voulais écouter les confs. Ce qui rendait les choses un petit peu premium quelque part. Mais oui, c'était décevant pour tout le monde. Les organisateurs, les sponsors qui étaient présents, ils ont vu quasiment aucun retailer. Donc j'imagine que quand t'es sponsor et que t'as mis un gros ticket
pour avoir un stand. Pour les observateurs, comme tu dis, c'est super parce que du coup, t'as pu aller sur les stands et sûrement discuter comme il fallait. Mais
ceux
qui regardent l'investissement qu'ils ont fait et puis ce qu'ils en retirent, pas forcément. C'est quoi la tendance? Est-ce qu'il y avait un thème? J'ai l'impression que c'était révolutionner le retail, mais peut-être que je me trompe, je me souviens plus trop le thème qu'ils avaient mis. Il y avait pas un thème pour cette année?
C'était le thème, c'était le redémarrage, c'était l'accélération, quoi. C'était c'est-à-dire 2022, année de la renaissance en quelque sorte. Et effectivement, c'est un petit peu ce qu'on ressentait. Tout le monde avait envie que ce soit ça. Mais bon, je pense qu'on est encore dans les starting blocks et qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Et les grands sujets, en fait, c'est comment, dans quelles conditions est-ce qu'on peut redémarrer malgré tous les challenges qu'on a.
Tu as assisté à des conférences qui étaient intéressantes, tu as appris des choses ou ça reste try level? J'ai l'impression que c'est de bonne qualité les confs là-bas, non?
C'est très bonne qualité. Alors, évidemment, comme tu as les grands patrons qui parlent, on avait le patron de Target, de Walmart, de Best Buy, enfin, toutes les grands retailers qui comptent sont présents. En général, ils font pas d'annonces fracassantes de scoops phénoménaux, mais quand même, c'était intéressant parce qu'ils indiquaient, on voyait des nuances dans les différents axes stratégiques, dans ce qu'ils avaient fait. C'était un peu les constats de tout le travail accompli depuis 2 ans. Hein. On couvrait les deux dernières années. Et puis, réfléchir au fameux new normal. À quoi ça va ressembler, quelle est la suite, quels sont les challenges, sur quoi ils travaillent en ce moment. Ça donne des bons indicateurs sur les préoccupations et ce qui se discute dans les codires des grandes boîtes de retail aux États-Unis. Et puis, il y a des observateurs aussi, il y a des cabinets de conseil qui font des très bonnes présentations. On avait notamment McKinsey, IBM, Bain, etc. etc. Donc, des choses intéressantes à tout point de vue.
J'avais plusieurs questions pour toi. Déjà, sur les stands, est-ce que la France, ça représentait quoi? Parce que je sais qu'il y avait une grande délégation, mais ça représentait peut-être 20% des boîtes ou 5%, c'était quoi le ratio?
Je dirais maximum 5-10%, je dirais. Il y avait un corner French Tech avec Business France qui avait emmené une délégation de tech, donc il y avait une vingtaine de startups françaises qui étaient sur un plot dédié. Ils étaient ravis d'être là. Je pense que certains, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ont eu des bons contacts et ont amorti finalement leur participation. Donc, en trois retailers et trois contacts qualifiés, c'est amorti. Donc, certains étaient ravis, d'autres un petit peu déçus parce qu'ils en attendaient beaucoup plus. Mais globalement, je pense que tout le monde était content d'être là et de participer à cette édition qui restera comme une édition un petit peu de relance. Et on faisait partie des courageux qui bravaient le Covid quand même. Faut pas oublier qu'à New York, c'est la pandémie, elle est à son maximum.
Tout le monde avait son masque, tout le monde faisait très attention parce que si t'es bloqué aux États-Unis, ça blague plus. Donc faire très gaffe, c'est ça.
Il faut pas oublier, c'était très contraignant. Déjà pour partir, simplement pour s'envoler, il faut avoir le test, le contre-test, le vaccin, etc. Une fois arrivé, tu dois montrer patte blanche et éventuellement te faire retester. Là-bas aussi, à New York, il y a des tentes, des endroits où tu peux te faire tester gratuitement. Alors, c'est des tests assez sommaires, hein. C'est des tests antigéniques. Tu peux faire les deux PCR antigéniques. Ils sont pas très violents avec le goupillon, hein. Ils restent en surface, donc tu te dis, ouais, c'est pas très, très sérieux. Mais ça marche. Tout le monde le fait. Tu as un bracelet quand tu rentres à la NRF qui montre que tu es vacciné. Enfin, tu montres, voilà. Donc, mets un bracelet que tu gardes jour et nuit, un petit bracelet vert. Et puis ensuite, ben voilà, c'est l'histoire de se faire retester régulièrement. Et puis, il faut se faire retester avant de partir. Donc, avant de reprendre l'avion, il faut avoir un test négatif aussi. Sinon, tu restes 10 jours, effectivement. Et il y en a certains qui ont dû rester.
Et ouais, ça bouscule. Et si on se dit que tu envoies une délégation de ta société là-bas et qu'ils restent bloqués, certains restent bloqués, ça peut être très difficile. Et sur le corner français, c'est les boîtes qu'on voit régulièrement dans les événements, les grosses boîtes, enfin de la supply, de l'e-commerce, etc. C'est un peu varié. Ou c'était quoi comme type de boîte?
Oui, c'est des acteurs qu'on connaît, qui sont sur tous les univers de technologie retail, que ce soit effectivement des solutions d'optimisation du e-commerce, des solutions d'optimisation du back office. On a passé pas mal de temps avec Vertigo notamment, qui était là. Voilà, il y en avait une bonne quinzaine, donc très très actif et très présent.
Sur les thèmes qui étaient abordés justement dans les conférences, si tu regardes à haut niveau là les sujets chauds, et on pourra ou non discuter ou débattre une autre fois, est-ce que c'est du bullshit ou pas, mais on entend beaucoup métavers, NFT, quick commerce, etc. Est-ce que tout ce bullshit, il y était également au NRF, et tu le vois dans les titres des confs où c'était les gens en parlaient, se positionnaient dessus sur leur stand, ou non, c'était beaucoup plus pragmatique justement, et je sais que tu es un grand fan du pragmatisme et des choses qui sont réelles. Je vais pas me faire des copains avec cette question, la manière dont je l'ai tournée.
Il y a les deux, et c'est effectivement, tu préjuges bien. Moi, je suis évidemment d'un naturel sceptique sur tout ce qui n'est pas concret et très opérationnel. Le retail, d'ailleurs, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, les grands acteurs qui ont inauguré la conférence, hein, je pense notamment à Brian Cornell de Target, le patron de Target, a évoqué les vrais challenges concrets opérationnels du moment. Il est évident qu'il y a des sujets qui sont dans toutes les bouches, qui sont importants aussi. Hein. Il faut pas négliger. Et d'ailleurs, c'est rassurant parce que quand on parle de sustainability, d'éco-responsabilité, c'est des sujets, des vrais sujets importants. Les sujets un peu propres aux États-Unis aussi, qui sont la diversité et l'égalité, c'est également important. Ouais. On voit bien que c'est en haut des agendas. En tout cas, c'est affiché comme tel. Il faut voir après la réalité de tout ça. Le métaverse et tout ce qui est NFT, tout le monde en parle parce que c'est fashion. Mais après, en termes de réalisation concrète d'anticipation de ce que ça peut devenir, c'est le grand point d'interrogation. Donc là, il y a des sujets très spéculatifs et des sujets très opérationnels. Et je pense qu'il faut faire le distinguo entre les deux. Hein, quand on parle de supply chain, d'inflation, de crise de l'emploi, ça, c'est des sujets du moment et qui sont directement impactants sur le résultat tout de suite. Les autres sujets sont des sujets plus de prospective, même s'ils sont intéressants et ils ont été quand même abordés en long, en large. Et puis, il y a des sujets de type effectivement politiquement correct, comme justement ces notions un peu de diversité qui sont affichées comme quelque chose qu'on brandit en disant on fait le bien aussi, on est dans le mouvement. Voilà.
Ouais.
Je prends ça avec un peu des pincettes.
Ouais, c'est un événement où tu vas avoir des délégations de tous les pays, mais ça reste focus sur le marché américain. Donc les speakers, c'est américain, et ils adressent ce marché-là. Donc après, il y a une petite différence culturelle et faut juste prendre
Absolument.
Le recul ou savoir comment on peut transposer ça pour nous. Et justement, sur l'e-commerce en tant que tel, tu as une ou deux tendances, une ou deux choses qui t'ont marqué ou que tu voulais souligner ou pour nous, parce qu'on est dans le café de l'e-commerce pour l'e-commerce et les trucs intéressant.
Alors oui, il y a des pure players qui sont vraiment passionnants. Et j'y reviendrai. Une boîte qui s'appelle Chewy Pet Store c'est une sorte de one stop shopping pour les animaux de compagnie. C'est vraiment intéressant comment ils présentaient les choses, que ce soit en tant que magasin physique ou magasin online, puisque c'est une boîte qui a 10 ans et qui vient du pure play et qui effectivement essaie de recréer une expérience aussi enthousiasmante que celle qu'on a quand on va chez Disney. C'est ce que disait le speaker. Parce que effectivement, avoir un petit animal familier, c'est comme avoir un enfant, et quand tu l'emmènes chez Disney, c'est la fête. Donc ça, c'était assez amusant. Et puis, il y a eu aussi un commentateur, Mick Joel, et qui était là pour un petit peu décoder le futur. Et lui, ce qu'il a dit, ce que je trouve intéressant, c'est de dire que voilà, le monde physique devient de plus en plus transactionnel, alors que c'était l'apanage finalement du monde virtuel, du digital, d'être transactionnel. Et le monde online essaye de proposer de plus en plus des expériences. Et on voit bien qu'il y a une inversion, en tout cas une sorte d'équalisation entre le monde physique et le monde digital. Et que finalement, l'expérience sur le online, qu'est-ce que c'est? Et il posait cette question que je trouve intéressante, parce qu'au final, son discours, c'était « People don't buy things, they buy experiences ». Et c'est vrai qu'on a bien vu cette tendance, notamment chez les millennials, de rechercher plutôt des expériences que du produit, que de la possession. Et donc, la question posée, c'est comment est-ce qu'on crée une expérience, une bonne expérience, une expérience immersive online. Et c'est là où on voit les sujets de métaverse arriver et tous ces sujets d'immersion online. Mais c'est aussi là où tu te poses la question de qu'est-ce que c'est l'expérience sur Internet. Et en fait, il a évoqué notamment des expériences de type service qui vont au-delà de l'aspect transactionnel. Donc, tous les services d'abonnement, les services un peu engageants pour les clients. Et tout ça, c'est vrai que c'est sans doute quelque chose à repenser. Et il disait autre chose qui était intéressant, c'était en fait, un site e-commerce, c'est fait de complexité. C'est de la technologie très, très complexe. Et le maître mot, en fait, et le conseil donné, c'était « Make your complexity invisible to everybody else ». C'est-à-dire qu'en fait, que la complexité, c'est toi seul dois la voir, dois la comprendre, et finalement, elle doit être complètement invisible. Et donc là, on revient à ces notions du X, d'expérience aussi, hein, où finalement, tout doit apparaître comme absolument évident, alors que derrière, il y a une complexité énorme.
Et on pense à des Apple, des Tesla, par exemple, qui réussissent parfaitement ce genre de truc.
Absolument.
Où, ils mettent tout le client devant. Et j'aime bien le lien, la phrase que tu as citée, parce qu'on a vu qu'au départ, les sites web voulaient proposer l'expérientiel et c'était mimer ce qui se faisait en magasin, le produit, on le voit en 3D, etc. Oui, bon, si tu veux. Et là, il commence à arriver une nouvelle phase, peut-être un peu plus de maturité, où on fait des choses qui sont spécifiques au online. Et de la même manière, les magasins aussi, ils n'attendent pas que ça se passe. Ils essayent, ils vont très vite là-dessus à proposer de l'expérientiel. Donc, le lien qui est fait là, je le trouve c'est très élégant. Ouais, ça résume bien.
Et pour parler du e-commerce, parce que c'est souvent un acteur qu'on ne cite pas à la NRF, il est un peu tabou, c'est un peu comme Dark Vador, tu sais, ou
Voldemort. Ouais.
Ou Voldemort, c'est le fameux Amazon. Amazon était présent à la NRF. Ils avaient un stand, mais un stand qui était atypique, puisqu'ils avaient un Amazon Go sur l'espace, dans l'espace accessible à tous. Donc, tu pouvais tester Amazon Go et le fameux Just Walk Out Technology où tu sors, où t'as payé. Alors, ça marchait pas hyper bien parce que si t'étais pas déjà Prime et que t'avais pas déjà tout configuré, ça marchait pas. Et c'est Raphaël Catan de Talenco qui a essayé et on a fait la NRF ensemble. Il a essayé et ça a pas trop bien marché. Mais globalement, ce qui est intéressant avec Amazon, c'est de voir que les retailers traditionnels aux États-Unis, évidemment le combattent comme un ennemi absolu, hein, et notamment Walmart. On sait que c'est la guerre absolue, entre la guerre à mort entre Walmart et Amazon, mais que d'autres reconnaissent que c'est un adversaire de valeur. Et je cite notamment le patron de Albertsons, qui est un gros acteur de magasins alimentaires, enfin du GSA alimentaire, qui s'appelle Vivek 540, et qui disait « Amazon is a fantastic competitor, they made the whole industry better ». C'est-à-dire que c'est quand même gonflé,
ouais,
et je trouve assez honorable de dire que voilà, on a en Amazon quelqu'un qui tire le marché vers le haut, qui nous oblige à être meilleurs sur notre digital et qui est toujours un peu à la pointe et qui nous oblige à nous améliorer. Donc ça, je trouve ça assez fair play déjà et assez rare, alors que dans d'autres pays comme la France, on est plutôt dans le Amazon bashing systématique sans reconnaître que c'est quand même l'inventeur du e-commerce.
Ouais, soit on n'en parle pas ou soit on fait des simplifications exactement. J'aime bien l'idée de diaboliser complètement. Or, tout n'est pas avec nous, tout n'est pas magnifique chez Amazon. Faut juste pas tomber dans
clairement.
Les excès, mais comme dans tout, faut pas tomber dans un excès dans l'autre. Et en termes de, si on se met du point de vue du client, il y a énormément de choses qui sont intéressantes. Ouais.
En tout cas, sur la partie opérationnelle, ouais. Ils sont impeccables. Et d'ailleurs, il y avait un autre acteurs qui disaient que tout ce sujet-là, it's a capability play, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, pour être dans le game aux États-Unis, c'est il faut démontrer ta capacité à délivrer.
Ouais.
Donc avoir un digital avancé, avoir advanced analytics, l'excellence opérationnelle sur ton omnichannel, etc., etc. Donc c'est capability qui compte aujourd'hui en période de crise. C'est comment tu es capable de délivrer l'expérience. Tout se juge à l'aune de l'expérience de l'excellence opérationnelle.
Michel, est-ce qu'on a parlé de la pénurie des composants, les problèmes de livraison, etc., le prix des bateaux, etc., du transport? C'est des sujets qui étaient évoqués ou pas du tout? Ce qui se passe sur la supply
au
niveau mondial. Ouais.
Bah, clairement, c'était en haut de la pile des sujets.
Okay, wow, okay.
Les challenges de la supply chain, la pression de l'inflation, tout ça, c'est là pour rester. Il se pose vraiment la question de est-ce que ça va durer. En clair, les Américains ont quand même injecté, et le retail en particulier, entre 5 et 6 trillions. C'est-à-dire, je sais pas comment on dit en
trillions,
c'est des milliards,
des
milliards, voilà, dans l'économie. Donc, ils ont... On voit bien qu'il y a eu un coût extraordinaire de tout ça. Les questions de supply chain sont au cœur de toutes les discussions. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a comme réponse en face? Eh ben, plus de données et plus de visibilité, de transparence des données. Donc, pour avoir une visibilité upstream, comme disent. Donc, pour aider sur le court terme, il n'y a que ça. C'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a à court terme plus de visibilité dans la data et plus de réactivité, d'agilité pour réagir par rapport aux données qu'on a. Donc, faire avec ce qu'on a. Et dans le moyen long terme, on est plutôt sur des sujets d'infrastructure et donc d'investissement sur le long terme. Et là, il y a énormément de volonté, notamment au niveau de la NRF, hein, l'organisation globale, pour moderniser les ports, pour améliorer les routes, les ponts, faire un vrai changement sur le long terme pour améliorer l'infrastructure américaine. Parce que, en fait, effectivement, il y a une demande qui a été multiplié par 10. Hein, d'habitude, l'augmentation de la demande en matière de containers, etc., c'est 3% par an. Et là, cette année, c'était 30% là, en ce moment. Et donc, ils ont un problème de containers, un problème de coûts. Ils sont obligés de passer de Los Angeles à la Virginie pour changer de port d'arrivée parce qu'il y a des congestions. Il y a un manque de chauffeurs routiers, de transporteurs. Et puis ils réfléchissent à faire du 24/7 pour décharger les containers dans les camions. Enfin voilà, il y a tous ces problèmes de supply chain très opérationnels qui sont couplés à un autre sujet qui était en haut de la pile, qui était le manque de ressources dans le retail. Il y a une pénurie vraiment de talents. On a du mal à recruter dans ce secteur, que ce soit au niveau de la supply en entrepôt pour les transports routiers, mais aussi en magasin. C'est de plus en plus difficile. Et il y a 1 million de jobs sur le marché aux États-Unis dans le retail en ce moment.
Ça pourra peut-être malheureusement accélérer la tendance d'aller vers de l'automatisation ou de la robotisation, etc.
Mais bon, ça en fait partie.
Tout le monde ne pourra pas aller là-dedans. Ouais.
Bien sûr. Voilà, donc 3 gros sujets, si tu veux, effectivement, la supply chain, l'inflation avec les grandes questions que ça pose, comment réduire, comment ne pas impacter trop les clients au niveau du prix et ne pas le répercuter, l'augmentation de l'essence et tous ces sujets-là. Et puis, la pénurie d'emplois qui est au cœur de toutes les discussions aussi.
Michel, dernière question pour toi avant la conclusion. Est-ce que la moitié du salon était trustée par les fintechs?
Non, pas du tout. Pas du tout, il y en avait relativement peu d'ailleurs.
Il doit filtrer alors peut-être, ouais.
Il y avait beaucoup de techno pour le magasin, des techno de back-office, des techno de logistique, beaucoup de techno autour de la data, enfin les gros sujets, c'était ça. Et puis un innovation, il y a un coin innovation qui était passionnant aussi. Il y avait des tas de boîtes un petit peu inédites qu'on voit pas souvent. Il y avait un corner aussi avec les meilleures startups d'Israël. On avait notre corner à nous avec la French Tech et qui était quand même dignement représentée et fier d'être là. Donc voilà, on peut dire qu'on n'a pas fait mauvaise figure en tant que Français à la NRF cette année.
Michel, on a parlé quelques minutes, il y a énormément de choses encore à discuter. Et en plus, si on veut en savoir plus et avoir des exemples concrets, le retour sur les chiffres, etc., comment on fait?
Alors, on va organiser dans quelques semaines ce qu'on appelle un back from NRF, retour NRF, en présentiel, j'espère, et en digital. On va en faire un à Lille, un à Paris. Évidemment, je l'annoncerai sur Jam Art Connect et sur notre site et sur ma page LinkedIn également. On fera des invitations ciblées pour les événements privés. Tout ça est en cours de préparation et ce sera l'occasion d'aller plus loin dans le débriefing de tout ce qui s'est dit à la NRF, des grandes tendances, des chiffres, mais aussi, et j'ai passé pas mal de temps à ça, des visites de magasins, puisque je suis allé voir les nouveaux concepts qui sont sortis à New York, notamment le Google Store, qui est intéressant, mais pas que, il y en a plein d'autres et qui illustreront les grandes tendances en fait retail physique et digital et les tendances 2022 et suivantes. Donc ça
arrive dans les prochaines semaines. Donc premier trimestre, ouais.
Absolument. Et puis on a également, je profite pour annoncer trois événements qui sont sur le premier semestre. On crée un événement qui s'appelle Retail Data Day qui va être dédié à la data pour le retail, avec deux focus cette année, la data pour le pricing et la data pour l'offre. Et j'encouragerai tous les patrons de l'offre, du pricing et de la data à nous rejoindre. Ce sera sans doute le 11 mars. On est en train de finaliser la date. C'est très bientôt. On devait le faire le 3 février, mais on reporte à début mars pour être en présentiel. Et puis ensuite, on enchaînera avec un événement dédié aux acteurs du B2B, donc au négoce, qui s'appelle Négoce Connecté. C'est la deuxième édition, le 24 mars à Paris. Donc tous les gens du négoce, du retail B2B, qu'ils soient online ou présentiel, ou physique, pardon, on finit par se mélanger. Et puis enfin, notre événement phare du premier semestre, c'est Retail Project, le 19 mai, l'événement qui va réunir tout le gratin et du retail, et donc les patrons du retail physique notamment, et de l'omnicanal, le 19 mai à Paris. Voilà pour les trois grands événements cette année.
Merci beaucoup, Michel. On va mettre un lien vers le site pour suivre tout ça. On mettra également un lien de ta page LinkedIn parce qu'il faut te suivre pour être au courant de tout ça. Et puis, si on veut te contacter, c'est le meilleur moyen. Merci mille fois, Michel, pour ce retour d'expérience. Au plaisir d'écouter, soit d'assister à un de tes événements et de le couvrir, ou alors d'avoir d'autres retours d'expérience. Quand est-ce que tu vas en Chine, tu le sais ou pas encore? J'ai vraiment hâte que tu me fasses un retour. Cette année, tu penses à le faire ou pas en 2022?
Écoute, ne préjugeons de rien. On attend que Omicron nous débarrasse du Covid et puis on verra ensuite.
Je prends un ticket avec Laetitia et on se met dans une valise.
Absolument.
On vient avec vous, absolument. Mais direct.
Absolument, on a vraiment hâte d'y retourner, effectivement.
Merci beaucoup, Michel. Bonne journée.
Merci à toi. À bientôt.
Reco micro, au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Laetitia, quel est ta reco de la semaine?
C'est ma recro passion de cette nouvelle année. C'est un site qui a aussi une newsletter, mais pour le moment je ne vous conseille pas la newsletter puisque je l'ai pas encore bien décryptée. Mais en tout cas je vous conseille le site. C'est un site dédié à l'actu de la crypto, des NFT, du métaverse. Et pourquoi est-ce que j'aime bien ce site-là? C'est parce qu'ils sont comme Adrien et moi-même, ils décryptent tout sur un ton simple et funky. C'est assez rigolo, c'est hyper accessible surtout dans le monde des cryptos et de la NFT. Vous avez beaucoup de choses en anglais et vous avez surtout beaucoup de choses très 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 sérieuses, très très lourdes parfois, mais eux en tout cas ils empruntent un ton complètement décalé et c'est ça qui me plaît. Donc je vous invite à aller suivre, c'est une version bêta et en plus si vous êtes comme moi un fan des années 80-90, vous allez remarquer pas mal de refs à des émissions, à de la typologie parfois sur certaines illustrations qui vont vous faire rappeler des choses des années 90. Donc gros coup de cœur pour ce site, le Journal du Coin. Ou le Journal du Coin, hein, mais je pense que là, c'est plutôt du coin.
La reco, en fait, c'est une source que j'avais déjà dans toutes les sources quand je fais ma veille, mais François Duranton l'a placée dans le groupe WhatsApp en parlant de la newsletter. Donc, je ne commenterai pas la newsletter parce que je ne savais pas qu'ils avaient une newsletter, mais ça m'a permis de retourner sur le site. Je parle du site très connu Marketplace Pulse. C'est en anglais et ma recommandation, c'est le rapport 2021 des Marketplaces. Vous allez penser que je fais une obsession sur les Marketplaces. En l'occurrence, ce site-là, il est très bien fait. Vous avez des articles, également la newsletter. Je vous invite à vous inscrire, mais je la suis pas. Je me suis inscrit, donc je pourrais vous le commenter. En tout cas, sur la homepage, vous pouvez accéder au rapport. Il n'y a pas besoin de mettre son nom, prénom et toutes ces informations et groupe sanguin pour le lire. Vous cliquez dessus et vous avez un rapport. Donc, c'est une page qui est super bien structurée. On parle d'Amazon, d'eBay, de Shopify, des agrégateurs. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de Shopify? Eux-mêmes à vous, Shopify, pas vraiment Marketplace, mais on les met dessus. Mais ça demandera encore une demi-heure de débat. Donc, je vais juste passer outre. Et on parle des agrégateurs, ok, aussi les agrégateurs sur Amazon, les Trazio, Heroes, SellerX, etc. Il y a un petit à la Gartner Forrester, un petit cadran pour les positionner. J'ai beaucoup rigolé sur le positionnement de Google, donc je vous le spoile pas. Allez cliquer sur le lien, regardez, souriez et puis voilà. Donc c'est ma reco. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin. Oui, vous êtes triste que c'est la fin de cet épisode. C'est la rubrique où on se détend, on s'amuse. Cette semaine, comme chaque semaine, j'ai l'impression depuis depuis la rentrée, on est tous les deux maîtres du jeu à tour de rôle. Donc, vous n'hésitez pas à participer de votre côté. Cette semaine, on a un chiffre de la semaine et un what the fake. Laetitia, le chiffre de la semaine.
Adrien, si je te dis 2,5%. Tu me dis que c'est la part de marché du groupe Casino sur la livraison en Île-de-France, et je parle de la livraison le jour même. Tu me dis que c'est le pourcentage de Français possédant la 5G, donc détenteur d'un smartphone éligible à la 5G. Ou tu me dis que c'est l'empreinte carbone du numérique en France.
Ben non. Enfin, donc déjà le deuxième, c'est sûr que non. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. L'empreinte carbone du numérique, je pense qu'elle est aussi beaucoup plus importante que 2,5 malheureusement. Donc j'irai le premier, sans trop de conviction.
Et donc du coup, c'était quoi le premier? J'avais dit quoi?
La livraison
du groupe Casino, ouais. Eh bien, pas du tout. Au quatrième trimestre 2021, le propriétaire des magasins Casino, Franprix et Monoprix a pesé pour 22,8% sur le segment livraison rapide. Alors, on ne parle pas de quick commerce, hein. On parle bien de livraison rapide, de livraison le jour même. Et ils sont suivis de très près par Carrefour. 2,5, c'était l'empreinte carbone du numérique en France. Donc, en fait, c'est un rapport qui a été mené par l'ARCEP et l'ADEME, qui sont des spécialistes de l'empreinte environnementale. Et c'est le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance qui a demandé à ces organismes de dresser cette étude. Et en fait, le numérique est bien à l'origine de 2,5% de l'empreinte carbone en France. Et ce sont les terminaux, donc par exemple tout ce qui est écran, téléviseur, écran d'ordinateur, qui sont eux à l'origine de 65 à 90% de l'impact environnemental. Voilà, nous sommes dans une belle industrie qui est tout à fait propre et qui ne consomme rien du tout. Et sur la 5G ?
Ouais.
Eh ben non, en fait, c'est très peu. Je pensais qu'on était beaucoup plus que ça. En France, il n'y a que 26% de gens qui possèdent la 5G. Je pensais que le taux de pénétration ou d'adoption était beaucoup plus élevé. En fait,
ouais, ça a été lancé il y a un an, un truc comme ça, ou peut-être un an et demi, un truc comme ça. Ouais, donc enfin,
dans mes souvenirs, la 4G, c'était révolutionnaire. Et,
Non, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais bon, 2%, ça me paraissait simple. Non, 20%, c'était en phase avec ce que j'aurais pu imaginer. Ça progressera doucement. Laetitia, à mon tour.
Allez.
Alors, what the fake.
Tu me rappelles ce que c'est.
Alors, je te lis des titres de news et tu me dis est-ce que c'est fake news ou pas, est-ce que c'est une vraie news ou est-ce que je l'ai inventé.
Okay.
On commence par la première. Certaines stars de TikTok gagnent plus d'argent que les top CEO américains.
Je dois dire tout de suite là.
Ouais. Est-ce que c'est fake news ou pas?
Enfin, CEO de quoi? Tu peux être CEO d'une petite
CEO,
boîte
qui fait pas de... Du S&P 500, donc c'est le CAC 40, okay. Si tu veux. Donc, les stars de TikTok gagnent plus d'argent
non,
que
ben
les
non,
top CEO.
Non, quand même pas. What the fake.
Eh bien non, c'était vrai. Tu as par exemple Charlie, alors je ne connais pas, mais bon, toi tu connais sûrement Charlie D'Amelio, qui en 2019 a gagné plus de 17 millions de dollars, quand la moyenne des CEO S&P 500, elle est de 13,4 millions de dollars. Et sachant que quand on parle de rémunération des CEO, on prend les bonus, les stocks.
Il y a les bonus inclus
voilà,
et
tout. Tout est inclus. On est
en
moyenne de...
Tu es en train de me dire qu'il vaut mieux être influenceur sur TikTok que d'être à la tête de Salesforce ou d'un Shopify.
C'est juste hallucinant. Deuxième news, Aldi teste un magasin autonome en Angleterre.
Aldi, ils sont quand même assez forts. J'ai envie de dire oui.
C'est une bonne réponse. Ils testent leur premier magasin autonome en Angleterre, à l'instar des Amazon et compagnie. Troisième news, 90% du e-commerce global est détenu par 4 Chinois.
Oui.
Et non, c'est fake. Amazon, ça fait 20%, plus de 20%. Non, tu es à 44%, ce qui est déjà beaucoup. Donc 44% du e-commerce global est détenu par 4 Chinois, les Alibaba, etc. On en a parlé tout à l'heure.
Il leur faut pas beaucoup de temps, puisque du coup, avec cette belle alliance Shopify et JD.com, c'est bon.
Quatrième news, l'utilisation des GIFs. Alors oui, on dit GIF, GIF, etc. J'ai toujours dit GIF, donc je vais rester sur le GIF. L'utilisation des GIFs explose chez la Gen Z.
Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc de vieux, moi, les gifs. Mais j'ai envie de dire que oui, c'est vrai.
Eh ben non, c'est faux. Et c'est exactement ce que tu as dit. Quand tu utilises un gif, c'est que tu es un boomer. Donc là, quand j'ai lu la news, j'ai commencé à pleurer, les larmes de sang. Les mèmes, les gifs, etc. Ça y est, c'est un boomer.
Mais en même temps, la Gen Z, ils aiment beaucoup des choses assez old school et tout ce qui appartient à la Y2K, tout ce qui appartient aux années 2000. Donc ça aurait pu être vrai. Et oui, donc du coup, tu essaies de nous dire que tu es un boomer. Bah, ok, boomer. Et écoute, je dois avouer que j'ai lamentablement échoué dans ce what the fake.
Il en reste encore deux, rapidement, Laetitia.
Ah, il en reste encore deux. Yes. Allez.
Microsoft rachète le studio de jeux vidéo Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars. Ouais, donc ça, c'est complètement hallucinant.
Qui n'a pas vu cette news?
Exactement, c'est hallucinant. Et enfin, la dernière, donc bravo. Google Suite Legacy Free Edition va s'arrêter. Donc ça te permettrait d'avoir des emails sur avec ton nom de famille, par exemple, ou un nom. Entre 2006 et 2012, si tu avais souscrit au service, tu avais des emails gratuits avec des noms de domaine particuliers. Et donc ça va s'arrêter dans quelques mois.
Et pourquoi ça s'arrêterait? Parce que toute bonne chose a une fin, et donc je dirais que c'est vrai.
Eh bien, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'e-commerce, mais c'est mon coup de gueule de la semaine. J'ai pleuré, j'endors pas de la nuit. Ça fait 15 ans que j'ai construit, donc que j'ai ces emails pour toute ma famille.
J'ai construit mon branding.
Non. On a 30 utilisateurs. Il y en a 25 qui sont actifs. Oui, je suis d'une grande famille et j'en fusse même les cousins, etc. J'aurais fait le truc. Ça nous coûterait 1 400 € par an pour avoir nos emails, pour continuer à recevoir nos emails avec du name.fr. Donc, je suis extrêmement triste et bon, voilà.
Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer ou...
Déjà, ouais, il va
justement,
falloir.
Non. Si,
déjà,
si le service déjà... s'arrête, comment ça se passe? Ouais, bah justement, voilà, qu'est-ce qui se passe?
Non, il propose de la migration, etc. Non, mais le truc marrant, c'est que dans quelques jours, je vais devoir aller voir la famille, leur dire, vous savez quoi, le truc que vous utilisez depuis 15 ans, que je vous ai installé, il va falloir commencer à payer ou alors il faut l'arrêter. Alors, c'est 5 € par utilisateur et par mois, donc ça, tu me diras, c'est pas grand-chose, mais 60 balles par an pour avoir un email, je pense que la plupart des gens ne paieront pas. Donc, écoute, il va falloir que j'aie cette discussion avec la famille. Félicitations, Laetitia.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références à cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédecommerce.fr. Surtout, laissez-nous 5 étoiles et plein d'avis, positifs ou négatifs, parce que nous, on aime bien vous lire et on aime bien savoir ce que vous pensez de l'émission.
On a 99 notes. Je préfère la technique de certaines marques que tu adores, qui sous-doit et qui récompense les personnes qui mettent des notes. Donc, vous n'avez aucune récompense si vous mettez une note et un commentaire, mais en tout cas, vous aurez notre gratitude éternelle. Donc laissez des notes et ça nous permettra d'atteindre le chiffre symbolique de 100 notes sur Apple Podcast et ça va, c'est la meilleure des récompenses. Merci à tous, à la semaine prochaine et à très bientôt. Au revoir Laetitia, au revoir les auditeurs.
À très bientôt, au revoir.
Ah, c'est un scandale! Bande de voleurs, c'est un coup pourri que je ferai à payer.